Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Immédiatement chez notre invité, c'est sa fougue, sa passion, c'est l'énergie sans limite qu'elle met à défendre ses clients. Et ses clients, ce sont des gens accusés de crimes, de viols, de complicité de terrorisme, des hommes et des femmes que l'opinion a déjà condamnés. Ennemis publics, indéfendables aux yeux de beaucoup. Quand certains essaient de les déshumaniser, elle, un peu seule contre tous, parfois, tente de les humaniser. Au nom de la justice, avec un grand J. Pas la justice médiatique, ni populaire, encore moins celle de Twitter, non. La justice qui l'habite, c'est celle qui permet la nuance, l'écoute, la preuve. Pas l'excuse, mais la compréhension d'un parcours, d'une vie, d'un chemin. Quelle tâche, quelle mission compliquée dans une époque qui aime le blanc et le noir, le bien et le mal, dans une société qui veut des coupables bien identifiés et bien enfermés pour se sentir plus en sécurité. Elle le dénonce d'ailleurs, elle parle de surenchère sécuritaire, un fait divers, une loi, dit-elle. Mais alors, puisqu'on est au Sénat, a-t-elle un appel à lancer aux élus qui la font, cette loi, à ceux qui voudraient la durcir? Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue, Marie Dosé. Merci d'avoir accepté notre invitation, ici, donc, au Sénat, dans ce dôme tournant. Avocate au barreau de Paris, à la tête de votre propre cabinet, spécialisée dans la défense pénale, vous êtes dans une maison qui fait la loi au sens large, qui l'écrit, qui la corrige, qui l'amende, qui la vote. S'il y avait un message à faire passer aux parlementaires, quel serait-il ?
De laisser la loi respirer, de la laisser arriver devant les juridictions avant de la réformer. La loi, elle doit se penser, mais elle doit aussi se mettre à l'épreuve du réel. Et la difficulté, notamment en droit pénal, c'est que les lois se succèdent alors même qu'elles n'ont pas le temps d'être mises à l'épreuve par les magistrats, par la défense, et que les jurisprudences n'ont même pas le temps de se construire, qu'une nouvelle loi vient modifier le droit applicable. Mais cette surenchère législative, elle ne date pas d'hier. Hein. Elle a commencé il y a déjà une quinzaine d'années et puis elle ne cesse de se poursuivre. Je ne sais pas si c'est aussi clair qu'un fait divers une loi, mais en tout cas, oui, on ressent chez chaque député, et peut-être un peu moins au Sénat quand même, mais en tout cas chez chaque député, la volonté d'exister et de répondre à un scandale, à une émotion, et parfois légitime, par le réflexe de légiférer. Mmh. Et ça, c'est terrible, parce qu'on perd beaucoup en sûreté. On a aussi un droit à la sûreté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne la loi et qu'on prenne le temps de la comprendre.
Quelle serait la bonne attitude du politique vis-à-vis à la fois de la justice, mais aussi de ceux qu'on appellerait les bourreaux et les victimes ?
S'agissant de la justice, et surtout de la justice pénale, moi j'ai une vraie difficulté parce que elle s'est transformée en fait divers. Hein, on ne la pense plus. Je vous écoutais, j'écoutais votre propos introductif, mais on ne pense plus la justice pénale. On s'en sert. C'est un instrument. C'est un instrument politique. C'est un instrument qui aide à exciter une émotion plutôt qu'à la calmer et à faire semblant d'y répondre justement en légiférant. Mmh. Donc la seule chose que j'aimerais dire, c'est d'abord laisser la justice pénale tranquille, un peu. Mmh. Elle n'est pas la réponse à tout. Elle doit faire partie d'un arsenal. Mais il faut prendre le temps de la mettre à l'épreuve, il faut la penser, et puis il faut agir ailleurs, sociétalement, dans la prévention. Mais on ne résoudra pas tout en légiférant et en adoptant des systèmes, ou en tout cas des lois de plus en plus répressives.
Parce que certains élus pourraient vous dire qu'ils ont été élus justement pour, avec comme principale mission qui est celle de protéger les concitoyens, leurs concitoyens.
Oui. Mais ce n'est pas ainsi qu'on protège nos concitoyens. Ce que je veux dire, c'est que depuis 1945, il n'y a jamais eu autant de personnes en détention. Jamais autant. Depuis 1945. Et sachez qu'avant 1945, on ne les comptait pas. Donc on n'en sait rien en réalité. Mmh. On arrive là à un seuil absolument problématique. Et pour autant, le problème de la délinquance, du rapport à la sécurité ou du sentiment d'insécurité n'a absolument pas évolué dans le bon sens. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas en légiférant de façon outrancière qu'un législateur va considérer qu'il remplit sa fonction. Et ce pourquoi il a été élu.
Est-ce que vous diriez que vous faites un peu de politique, vous, qu'il y a du militantisme en vous, dans le choix des affaires, dans le choix des personnes que vous souhaitez défendre ou ne pas défendre?
Non, parce que moi, je ne choisis pas celles et ceux qui me demandent de les défendre. Ce sont eux. Ce sont elles et eux qui me choisissent.
Mais vous pourriez refuser?
C'est assez compliqué. Je ne crois pas avoir, en 22 ans, refusé de défendre quelqu'un. D'abord, c'est intéressant parce que finalement, au fur et à mesure des années, les gens qui vous choisissent ne le font pas par hasard. Et finalement, ils vous reconnaissent. Donc d'abord, il y a ça. Ensuite, je n'ai jamais refusé de défendre quelqu'un. J'ai parfois refusé de défendre quelque chose. C'est-à-dire que lorsque le justiciable me choisit en me disant « Moi, ce que je vous plaidais, c'est ça, ça, ça. Je veux que vous plaidiez ça, ça, ça et ça, et que je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. » On ne m'achète pas. Je veux rester libre. Et à partir de là, je dis à celui que je défends, on arrête là. Ou alors je le convainc. En tout cas, avant, j'essaye de le convaincre que sa défense, à mon humble avis, n'est pas la bonne. Ou qu'il irait mieux, il serait plus judicieux qu'il aille voir quelqu'un d'autre, un autre confrère, qui irait dans son sens, mais moi pas. Donc voilà, je n'ai jamais refusé de défendre quelqu'un, mais quelque chose, oui.
Il vous arrive de défendre des responsables politiques. Est-ce qu'il y en a que vous ne défendriez pas? Et je pense, je ne sais pas, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez des limites?
Je crois que oui. Non, je ne défendrai pas Marine Le Pen ni Éric Zemmour. Non, je ne les défendrai pas.
Et Jean-Luc Mélenchon, oui?
Ah, ça, j'en sais rien. En fait, là, je n'ai pas envie de poursuivre l'inventaire à la Prévert parce qu'il y a aussi certaines valeurs fondamentales qui m'appartiennent et je n'ai pas envie d'entrer en conflit entre qui je suis et ce que je fais. Voilà, je crois qu'on peut... Vous savez, c'est un métier qui nous oblige à chaque fois à douter à nouveau, à nous mettre à l'épreuve. Il faut sans cesse se réinventer, essayer de n'être jamais sûr de rien. C'est déjà un métier qui nous empêche d'être toujours la même et qui nous oblige à évoluer. Mais il y a des fondamentaux dont je ne veux absolument pas m'émanciper.
Le Monde vous a surnommé l'avocate du diable, notamment parce que l'un de vos combats, c'est la défense des enfants et des femmes de djihadistes emprisonnés dans des camps en Syrie, dans des conditions abominables. Vous avez fait condamner la France pour refus arbitraire de rapatrier ces femmes et ces enfants. Un investissement personnel qui vous vaut des messages en pleine nuit de ces femmes qui vous envoient des nouvelles, qui vous livrent parfois des confidences. Je crois même que vous avez demandé à votre mère d'enregistrer des comptines que vous envoyez ensuite à ces femmes pour qu'elles les fassent écouter à leurs enfants. Êtes-vous, vous, toujours sûr de garder la bonne distance vis-à-vis de votre client, de vos clients?
D'abord, je veux revenir sur ce que vous venez de dire. J'ai été scandalisée par ce titre, l'avocat du diable. Pas pour moi, si les gens veulent m'appeler l'avocat du diable, ça parle d'eux et pas de moi, et j'ai aucune difficulté avec ça. Mais qu'on rattache l'avocat du diable à des enfants, ça en dit long quand même. Jusqu'alors, on n'avait jamais touché à l'enfance. L'enfance, c'était l'innocence. Un enfant n'était pas responsable de ce que ses parents faisaient, de ce dont ses parents, de ce que ses parents avaient choisi. Jusque-là, l'enfant, on n'y touchait pas. Qu'un journal comme Le Monde titre l'avocat du diable en ayant pour prisme de se portrait les enfants, j'ai trouvé ça assez scandaleux. Voilà, la page est tournée, mais encore une fois, ça n'est pas moi. Je m'en moque. C'est par rapport à ça. Et j'ai été assez outrée. Sur le reste de votre question, la bonne distance, oui, j'en suis persuadée.
D'avoir la bonne distance?
Oui, j'en suis persuadée parce que j'ai toujours su me protéger. Et parce que, vous savez, là, s'agissant des enfants prisonnier depuis bientôt 5 ans, hein, plus de 4 ans en tout cas, en Syrie, on n'est pas dans le judiciaire, on n'est plus dans le judiciaire. Bien sûr que j'ai réussi à faire condamner la France par la Cour européenne, par le Comité international des droits de l'enfant, par le Comité contre la torture des Nations unies, mais c'est une histoire exceptionnelle dans la carrière d'un avocat. Mmh. C'est-à-dire que moi, si on m'avait dit il y a 20 ans, lorsque j'ai prêté serment, vous allez devoir vous battre pour que des enfants prisonniers en zone de guerre, derrière des barbelés, soient rapatriés en France, puisqu'ils sont français, mais j'aurais éclaté de rire. Mmh. Enfin, je n'avais pas imaginé prêter serment pour ça. Je n'aurais jamais imaginé prêter serment pour ça. Donc non, évidemment que des liens se tissent, évidemment que lorsqu'une femme vous appelle, sa tante vient de brûler, son enfant a été blessé, ou elle m'apprend la mort de la maman d'une petite qui devient orpheline, tout ceci n'est pas codifié. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait m'arriver, mais j'ai toujours réussi à me protéger. Mmh. À me protéger. Je n'ai jamais considéré que mes clients étaient des amis et que tout ça formait une grande famille. C'est aussi une façon de les respecter que de tenir une belle distance entre eux et moi.
Je parlais de fougue et d'engagement incroyable en introduction. Vous faites régulièrement la tournée des prisons. Pendant un temps, vous preniez aussi le bus avec les familles des prisonniers. Pourquoi cette immersion ? Pour rester au plus près de leur réalité, pour mieux les comprendre ? Peut-être pour aller chercher justement cette once d'humanité en eux ?
C'est vrai que moi, j'ai besoin d'aller beaucoup en détention. Oui. J'ai un rapport au parloir qui est très très fort, mais parce que je suis incapable de défendre quelqu'un que je ne connais pas, ou en tout cas de bien défendre quelqu'un que je ne connais pas. Je souffre beaucoup en comparution immédiate. Si je ne connais pas celui que je défends, quelqu'un me désigne, il comparaît devant un tribunal, je le vois 10 minutes et 20 minutes plus tard, je plaide pour lui. Pour moi, c'est une torture. J'ai besoin d'aller plus loin qu'un dossier, qu'un procès-verbal. J'ai besoin de connaître l'histoire, même si je ne la plaide pas. Mmh. Et même si parfois je suis interdit par celui-là même que je défends de plaider ce qu'il me confie. Mmh. Ça arrive. Mmh. Et c'est une torture aussi que d'avoir la clé d'une personnalité, mais de ne pas pouvoir la donner au magistrat, parce que ça fait partie du secret entre lui et moi. Mais c'est ce qui me passionne, ce rapport à l'autre et cette densité au parloir. Vous savez, au parloir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a plus de monde extérieur. Il y a une relation, parfois un rapport de force, entre vous et celui que vous défendez. C'est quelques mètres où tout se fracasse. Et d'un point de vue émotionnel, c'est extrêmement fort. Moi, j'ai besoin d'aller en prison. Alors, j'y vais en bus, c'est vrai, mais parce que j'ai jamais passé le permis de conduire, ou plutôt, j'ai toujours échoué au permis de conduire.
Est-ce qu'il y a des affaires qui vous habitent, qui ne vous quittent pas ?
Oui, il y a des visages qui m'habitent et qui ne me quittent pas. Pas des affaires.
Lequel
des
vous viendrait, là, tout de suite ?
Oh, le visage d'une femme. Le visage d'une femme lambda. C'est pas du tout des dossiers médiatiques, mais le visage d'une femme, le visage d'un enfant aussi. Je me souviens de cet enfant qui pleurait et qui, devant le juge des enfants, la juge lui avait demandé « Mais pourquoi tu pleures ?» Et en regardant sa mère, il avait dit « Parce qu'elle pleure. » Cet enfant était un enfant battu par sa mère. Ce sont des images qui me hantent, pas des affaires.
Je parlais de votre fougue, de votre passion. L'un de vos confrères et amis, Dominique Tricot, dit de vous « C'est l'une des meilleures avocates de ce pays. Elle a une très grande qualité d'écoute, ce qui est rare chez les pénalistes, dit-il. Claire Doubliez, une consoeur, ajoute « Elle est pugnace, motivée, impliquée. Quand elle prend la défense de quelqu'un, elle va jusqu'au bout. » C'est quoi, jusqu'au bout ?
Mais je pense que je suis obsessionnelle. Ce qui a aussi ses travers. Et je pense que peut-être aussi, comme j'ai été très longtemps, quand j'étais enfant ou adolescente au conservatoire, de répéter des gammes et de répéter des arpèges. Je pense que ça répondit aussi à ce qui me caractérise, même partiellement, c'est ce goût de l'obsession. C'est vrai que je ne peux pas lâcher. Je ne peux pas abandonner.
C'est pathologique.
Je sais pas, peut-être. Donc je pense que ça convient à ma profession, évidemment.
Vous dites que cette profession rend fou.
Elle peut rendre fou. Il faut faire très attention. Elle peut rendre fou parce que, d'abord, c'est très rare aujourd'hui les professions où on se lève le matin sans savoir ce qui va arriver. Garde à vue, interpellation, échec, drame, joie. Bon, émotionnellement, on est tout le temps malmené. Donc ça, c'est assez rare. Et puis, c'est une profession... Il y a quand même une sacrée pression. c'est difficile de se sentir responsable et donc coupable du destin de quelqu'un. Mmh. Moi, alors bien sûr que c'est les magistrats qui jugent, c'est vrai, mais c'est pas possible de ne pas ne pas culpabiliser lorsqu'on plaide un acquittement et que 15 années de réclusion criminelle sont prononcées. Enfin, c'est oui, ça peut rendre fou. Ouais.
Votre premier patron, Michel Konitz, dit que vous avez même réussi à le convaincre de défendre un client gratuitement, gratos, dit-il. Ce qui nous amène à un point intéressant que les gens ignorent peut-être, c'est comment se paye un avocat lorsqu'il accepte notamment une affaire qui est médiatisée, mais dont on comprend qu'il ne va pas la faire payer. Est-ce que ce sont du coup les affaires moins médiatisées? Comment se paye un avocat?
Les honoraires sont libres, donc c'est très difficile. Et moi, je viens d'une famille où il n'y a pas de profession libérale. C'est vrai que je n'avais pas du tout cette culture-là. Je veux dire, mes parents sont fonctionnaires, mes grands-parents étaient ouvriers. Donc c'est vrai que cette culture de demander de l'argent, pour moi, ça a été un vrai problème. J'ai eu énormément de mal avec ça et je l'ai beaucoup délégué d'ailleurs. Je continue encore un petit peu parce que c'est toujours quelque chose, et ce sentiment de se vendre, c'est difficile pour moi, j'aime pas ça. Maintenant, bien sûr, les honoraires sont libres. On les fixe. Alors, moi, une comparution immédiate entre temps et temps, une information judiciaire entre temps et temps. Évidemment qu'une audience criminelle devant une cour d'assises va coûter plus cher qu'une audience devant le tribunal correctionnel parce que ça prend plus de temps. Ça se compte déjà en temps passé et en heures passées.
Bien sûr.
Évidemment.
Mais il y a des affaires que vous acceptez de défendre gratuitement.
Oui, bien sûr.
Parce que médiatique.
Ah non, ça n'a rien à voir avec ça.
Ça
n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, les quelques personnes qui ont osé me dire non, ben, je ne vous paye pas, mais de toute façon, c'est médiatique. Alors, ça, j'ai toujours répondu mais je ne suis pas payée par les médias et surtout, je ne suis achetée par personne. Vous me demandez là d'être achetée. Donc, ça, ce n'est pas ça du tout. Non, il m'est arrivé de défendre gratuitement des personnes parce qu'elles me bouleversaient, parce qu'elles n'avaient pas d'argent, parce qu'elles ne pouvaient pas accéder à l'aide juridictionnelle et parce que je veux garder la liberté de pouvoir le faire.
Vos détracteurs disent de vous que vous êtes trop donneuse de leçons, vous êtes un peu isolée dans le monde des avocats, vous ne fréquentez pas tellement les avocats de votre génération, vous dites que vous ne buvez pas des pots avec eux. Votre conjoint, l'écrivain Marc Villemain, nous dit « C'est une sauvage, elle n'a aucun code mondain, elle est mal à l'aise avec son époque et nourrit un complexe d'illégitimité qui oblige à redoubler d'efforts. » Est-ce que vous êtes plus à l'aise finalement avec les délinquants présumés que vous défendez qu'avec le monde des avocats, qu'avec vos collègues avocats? Vous êtes plus à l'aise dans ce monde-là?
Non, mais je suis plus à l'aise effectivement avec celles et ceux que je défends, qu'ils soient d'ailleurs victimes ou
bourreaux présumés
ou auteurs présumés ou mis en cause, ou mis en examen, ou prévenus, ou accusés. Je défends les deux, hein. Attention, c'est très important et je tiens à le faire toujours. Je ne veux pas, moi, je sais que certains confrères se spécialisent et disent « je ne défends que des victimes ». Moi, je ne défends pas que des accusés. Je défends aussi, en qualité de partie civile, Fabienne Boulin. Je défends l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui sont victimes du terrorisme. Je défends certains blessés, certaines veuves de l'attentat de Karachi. Donc, je fais attention à ça parce que j'en ai besoin. Et je défends, évidemment, certaines victimes de violences sexuelles. Donc, oui, c'est vrai que je suis plus à l'aise dans mon rapport au travail que dans tout ce qui est périphérique. Mais ça a toujours été. Je suis quelqu'un d'un peu isolé peut-être, j'ai jamais eu besoin en fait, voyez, du rapport social, du rapport aux autres en dehors du travail. Mais c'est pas pour autant que je n'écoute pas ce qu'on dit. J'ai des amis confrères et j'aime discuter avec eux et il m'arrive régulièrement de prendre mon téléphone pour leur demander conseil. Mais je suis pas très mondaine, voilà. Et je critique pas ceux qui le sont. Et c'est juste que oui, ça me rend pas très à l'aise.
Pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui, on se penche un peu sur votre parcours personnel, si vous le voulez bien. Vous avez grandi à Commercy, petite commune de Lorraine, aujourd'hui région Grand Est. Vous l'avez dit, petite fille d'ouvrier. Votre mère était institutrice en maternelle. Votre père avait aussi une formation d'instituteur, mais il s'est lancé en politique et il est devenu maire de Commercy, puis député maire de la Meuse. Et votre passion à vous, c'était la lecture. Vous dévoriez les livres de la bibliothèque municipale tenue par la mère de votre meilleure amie, je crois.
C'est vrai.
Vos premières lectures furent La Comtesse de Ségur et ça vous a tellement plu et influencé que vous êtes devenue croyante et que vous avez demandé à faire du catéchisme. Jamais les choses à moitié. Hein.
Non, jamais les choses à moitié, oui. Alors en plus, c'est drôle parce que La Comtesse de Ségur, c'est quand même vraiment le bien et le mal. Hein. Ouais. Ouais. Alors même que voilà, 40 ans plus tard, on n'en est plus tout à fait là. Ouais. Et oui, j'adorais lire, j'adorais la bibliothèque municipale et puis il y avait ces escaliers qui séparaient les petits des grands et je me souviens de la première fois où j'ai franchi ces escaliers parce que j'avais le droit d'accéder à la bibliothèque des grands. Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ça. Oui. Et puis, La Comtesse de Ségur, que voulez-vous
hein. À la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez? Que lui diriez-vous avant qu'elle ne se lance dans la vie?
De gagner en confiance, peut-être. Mais en même temps, moi, je pense que l'absence de confiance, elle oblige à douter. Mmh. Et ça, c'est très, très important. Mmh. Vraiment très important. Je travaille pas trop ce qui est censé être une faiblesse. Parce que je crois vraiment que le monde souffre d'une trop grande confiance en lui.
De trop d'assurance.
Ouais.
J'ai un document à vous proposer, Marie Dosé. C'est une archive qui vient des Archives nationales, nos partenaires dans cette émission. Il s'agit de la loi du 1er décembre 1900 autorisant les femmes à exercer la profession d'avocate. Mmh. C'est à l'initiative de Jeanne Chauvin que ce texte fut adopté. La première qui prêta serment fut Sonia Olga Balakowski-Petit, le 4 décembre 1900. Jeanne Chauvin fut la deuxième, 5 jours plus tard, le 9 décembre, et elle fut la première femme à plaider. Un peu plus d'un siècle donc que les femmes peuvent être avocates. Qu'est-ce qu'elles ont apporté à la justice?
Alors, ces 10 dernières années, elles ont bouleversé la défense.
Comment?
Elles l'ont bouleversé parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, d'abord, elle n'était pas là. Je me souviens de cours d'assises avec 5, 6, 7 confrères et puis moi toute seule. Et en fait, elles ont transformé la plaidoirie. Il n'y a plus d'éloquence à papa. C'était merveilleux, hein, j'adorais. Hein. J'adorais voir les confrères avec vraiment les effets de manche et puis...
C'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier?
Pas tout à fait. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est l'autre. Mm-hmm. Défendre l'autre, pas l'éloquence. D'accord. Et cette éloquence-là, elle était vraiment grandiloquente. Mm-hmm. Et pas beaucoup de dossiers, beaucoup de citations, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour. Les magistrats posaient leurs crayons et leurs feuilles, puisque de toute façon, l'important, c'était quand même l'exercice oratoire.
On était au théâtre.
Voilà, mais un merveilleux théâtre, intelligent, et qui en disait beaucoup sur la défense, mais peu sur le dossier, et parfois assez peu sur celui qu'on défendait. Nous sommes arrivés, il a fallu trouver autre chose. Il a fallu, parce qu'on n'a pas les mêmes voix, parce qu'on n'a pas le même corps, parce qu'on n'a pas le même rapport non plus au tribunal, parce qu'on commençait, donc pas avec la même assurance, on a trouvé autre chose. Mmh. Et je pense sincèrement que les femmes, et j'ai vu les avocates commencer, les femmes ont travaillé énormément. Elles ont été plus techniques, elles sont allées plus souvent en détention, elles sont allées plus loin dans la personnalité de celle et celui qu'elles défendent.
Manque de confiance en elles, peut-être.
Oui, mais parce qu'il fallait gagner un registre. Et ce registre-là, il a été gagné. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, ce sont plutôt les confrères qui commencent à plaider comme les consoeurs.
À s'inspirer de vous.
Ah oui, écoutez, celui qui a 25-30 ans commence une plaidoirie en revenant à l'éloquence à papa, je ne suis pas persuadée qu'il va beaucoup intéresser les magistrats. Ouais. Et je pense qu'aucun confrère ne prendra ce risque désormais. Les magistrats se sont habitués finalement à des plaidoiries beaucoup plus techniques, ce qui n'empêche pas l'émotion.
Ni l'éloquence.
Comment ?
Ni l'éloquence,
bien sûr, c'est une forme d'éloquence. Mais en tout cas, celle-là, je pense qu'elle a progressivement disparu parce que les femmes, eh bien, ont inventé autre chose.
C'est fou quand on sait que le mari de Simone Veil lui avait déconseillé de se lancer dans ce métier parce que ça n'était, selon lui, pas la place d'une femme d'aller au contact des malfrats, des délinquants, des criminels.
Mais moi, je me souviens, je pense que j'avais une semaine de barreau. Et un confrère m'avait ramené de détention, puisqu'il était en voiture, et je me souviens de cette phrase qu'il m'avait dite en disant « Amusez-vous, mais pas très longtemps, le pénal n'est pas fait pour les femmes. » Je me souviens très bien, c'était il y a 20 ans, un peu plus.
J'ai des photos maintenant à vous présenter, Marie Dosé. C'est un rituel dans cette émission. Voici la première, évidemment, vous le reconnaissez, Robert Badinter, immense avocat, immense ministre, celui qui a fait abolir la peine de mort en France. Si vous deviez nous parler de son plus grand apport à la justice, quel serait-il ?
C'est compliqué parce qu'on sait tous l'immense apport de Robert Badinter, c'est son combat. C'est son combat contre la peine de mort. Mais je l'ai entendu une fois et je l'ai rencontré à deux reprises. Il se dégage de lui ce qu'il devrait se dégager de tout avocat pénaliste. Il y a en lui à la fois une colère, mais aussi une émotion, une révolte et en même temps une raison qui hypnotise tous ceux qui croisent son chemin. Et en cela, Robert Badinter, il est avocat dans le sens le plus pur et le plus absolu du terme.
Il est habité par ça.
Il y a quelque chose en lui qui est vraiment de l'avocat pénaliste. Et c'est ça, cette façon de ne rien concéder.
D'avocat à ministre, vous, ça vous tenterait ?
Ah non.
Ministre de la Justice. Non. Une deuxième photo, il s'agit de Yannick Morez, maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. On a incendié son véhicule et une partie de sa maison parce qu'il était favorable à l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants. Quel regard la fille de maire porte sur son cas à lui et de manière générale le sort réservé aux élus aujourd'hui ? Aux élus locaux, aux maires.
Oui, je pense tout ça dramatique. Dramatique parce que, en plus, tout ça arrive à des élus locaux, ceux qui sont les plus proches des gens. Enfin, moi, mon père, effectivement, était maire d'une toute petite ville, Commercy, donc il ne se passait pas 2 mètres sans que les gens viennent lui parler, parfois d'ailleurs le houspiller, parfois lui sourire. Mais et voilà, c'est tellement important, l'élu. Et qu'on en vienne à s'attaquer à des élus locaux. Enfin bon, l'actualité aujourd'hui est effrayante. Donc il y a quelque chose de cassé là, en ce moment. De rompu, de cassé. Et j'ai écouté une conférence il n'y a pas très longtemps, réparer le dialogue, mais encore faut-il qu'il y en ait. La difficulté, elle est là. C'est qu'on a vraiment le sentiment d'une fracture entre les élus locaux et les administrés, d'une fracture vertigineuse qui est effrayante, vraiment.
J'ai une dernière question, Marie Dosé, qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de 4 statues que vous avez un peu repérées avant l'émission, qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ? Je pose la question à une avocate, j'ai peut-être une idée de la réponse, encore que vous pourriez nous surprendre.
La femme choisit la prudence, l'avocate choisit la justice. Et je pense que la prudence est de mise aujourd'hui et elle doit aussi gagner l'institution judiciaire.
La réponse était donc surprenante. Merci Marie Dosé d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci d'avoir partagé votre regard et un peu de votre monde avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat. Merci. Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com